Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Jérôme Sillon.
Avec Walida Cherchour, avec Maxime Chano, avec vous au 32-16. De partout entre Lille et le Paris Saint-Germain, Lille menait 2-0 à la 84e minute avec un superbe deuxième but de Dylan Bakwa. Le premier était très beau également d'Haraldsson et dans le temps additionnel. Magnifique but du gauche de Vitinha pleine lucarne et l'égalisation de la tête de Marquinhos. Avant de prendre Léo au 32-16, Luis Enrique a expliqué pourquoi Désiré Doué a été remplacé à la mi-temps. Eh bien, c'est tout simplement pour un petit problème musculaire. Rien à voir, dit-il, avec une décision technique ou tactique. Mais bon, c'est vrai qu'avec Luis Enrique, on a droit aussi de douter.
Ah bah c'est plus logique. En tout cas, c'est plus logique par rapport à la première mi-temps de Doué qui ramenait un peu d'électricité dans ce jeu moribond du PSG. C'est beaucoup plus probable. En tout cas,
T'aurais sorti qui sinon
Moi, je m'en sortis quelqu'un.
Non, mais moi, j'ai même pas trouvé ça scandaleux, personnellement.
Ah, bon,
ah ouais, que Désiré Doué sorte, je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus.
C'était le meilleur, enfin, c'était le moins mauvais. C'était celui qui a porté le ballon dans les bonnes zones.
Après, pour moi, c'était Ferran qui était le plus intéressant devant.
Ferran dans un rôle de.
Dans un rôle d'attaquant mais axial.
Dans la création du jeu, dans le danger.
À partir du moment que tu vas envoyer Guevara sur la seconde mi-temps, il faut sortir un. Soit tu sors Désiré Doué, soit tu sors Akliou. Si tu sors Akliou,
c'est vrai qu'Akliou, ça n'a pas été exceptionnel non plus.
Il faudra qu'on en reparle d'ailleurs, je pense que tu le tues, donc voilà, ça va donner un petit peu plus de confiance.
Il l'a fait contre Aston Villa.
Léo est avec nous.
Deux fois d'affilée, ça va être compliqué.
Supporter du PSG, salut Léo.
Salut les gars, bonsoir.
Ça va Léo ? T'as 15 ans, hein ?
Ouais, c'est ça, 15 ans. Exactement.
Bon. Léo, qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a moins plu ?
Eh ben, pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai appelé au standard à 2-0. Il y a eu le but du 2-0. J'étais vénère devant mon écran. Franchement, j'avais envie de tout casser. Donc j'appelle, etc. Et puis en regardant l'écran, en attendant d'être pris, 2-1, 2-2, et puis très content. Et ce que j'ai envie de soulever, c'est déjà la semaine dernière, j'ai essayé d'appeler moi après le 2 partout. Je suis pas passé, mais du coup là, la même chose, encore un 2 partout. Et je suis très content, entre guillemets, de cette mentalité, comme ça a été souligné, parce que moi... quand j'ai grandi avec le PSG, je suis supporter depuis vraiment que je suis tout petit. Et je suis de cette génération qui a connu que les défaites du PSG. United, moi, c'est celle qui m'a le plus traumatisé au parc.
Enfin, dis-moi, Léo, t'as 15 piges, t'as quand même vécu des bons moments à ton âge.
Sur les dernières années, c'était pas mal, non ?
C'est justement pour ça que je dis ça. Moi, cette mentalité de on veut pas perdre. Les gars, on prend un but à la 84e, ça fait 2-0. On propose rien du match. Et ben, on essaye. Il reste 5 minutes en additionnel. On essaye. Et je suis très content pour ça. Mais dans le même temps,
c'est pour ça que c'est bien de voir le verre à moitié plein. Je suis d'accord avec toi. Il y a plein de choses qui n'ont pas été ce soir, notamment les choix d'hommes ou certains joueurs qui n'ont pas fait forcément une top performance. Ouais, mais derrière, c'est vrai que sur la mentalité affichée, honnêtement, tu peux tirer le chapeau un petit peu aux joueurs, à Luis Enrique, à la mentalité qui a été affichée par le Paris Saint-Germain.
Léo, si on fait une petite évaluation, parce qu'on va la commencer dans un instant, ton top, ton flop, ton taulier, ton Casper.
Top Vitinha, je pense que c'est celui qui a fait globalement le moins mauvais match pendant 90 minutes et après le temps additionnel, bon bah exceptionnel. Le flop, franchement, il y en a quand même pas mal, j'ai envie de dire Digne, qui est vraiment pas bon. La manière dont il défend sur Bakwa, ça me fait penser un peu à une action l'année dernière en première ligue qu'il avait eu là. Il s'était
fait avec Ryan de Bournemouth.
Ouais, exactement, de Bournemouth. Ryan Tain, il avait même pas bougé, ça me fait penser un peu à ça, il est juste sa jambe là. On dirait un défenseur de R2, enfin bref.
Il nous a fait une Nuno Mendes, mais quand il a pas envie de défendre, quoi, Lucas Digne.
Exactement.
Après, merci Léo.
Après voilà.
Bon, merci. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée, à bientôt dans l'after, Léo. Bonne merci soirée. D'avoir appelé. Pour terminer sur le PSG, sachez que le match Rennes PSG aura. Vous savez que le match avait été inversé. Et bien la commission de compétition de la Ligue a aujourd'hui annoncé que le match retour aurait lieu au Parc des Princes et non pas au Roazhon Park.
Ça c'est une dinguerie.
Ouais, je trouve ça honteux.
C'est une dinguerie.
Je trouve ça honteux.
Ah ouais, par rapport à l'équité, vous trouvez ça honteux ?
Ah oui, c'est honteux.
Bien sûr que c'est honteux, dans la mesure où, encore une fois, Rennes avait décidé d'être une solution de repli, pas forcément d'échange. Et alors, le pire dans tout ça, c'est que la Ligue avait décidé de jouer ce match aller à Rennes sans statuer le match retour. Pour moi, ça me paraît complètement illogique. Quand tu regardes un petit peu la difficulté d'organisation sur un match comme le PSG fin août, alors que les Rennais sont en vacances, alors qu'ils ont eu à peine 3 ou 4 jours pour pouvoir organiser tout ce qui est sécurité, sécurité, marketing autour de ce qui est censé être le match le plus important quasiment de la saison pour Rennes.
Ah oui.
Honnêtement, business je pense que les Rennais sont complètement lésés et je trouve qu'honnêtement, attention, parce que c'est vraie jurisprudence. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as des clubs qui ne sont pas en mesure ou qui ne veulent pas aller jouer Strasbourg l'hiver ou ne veulent pas aller jouer à Lille cet hiver, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ben, écoutez, notre terrain, il est impraticable, on échange. Enfin, je trouve ça un peu bizarre, honnêtement, que la Ligue est statuée.
Oui, mais si Rennes avait eu un match supplémentaire à domicile et qu'ils finissent avec un point d'avance sur les autres équipes européennes, ouais, par exemple, pour
faire
en Ligue des Champions,
de Rennes,
c'est pas le problème de Rennes.
C'est le Paris Saint-Germain qui a fait de la merde. Enfin, c'est Paris Saint-Germain qui est responsable quand même de son propre stade pour accueillir un match de Ligue 1. Ouais, ouais. Et puis en plus, la sanction financière pour le PSG,
150 000 euros,
c'est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Rennes en fait a besoin d'être.
Pour moi, il aurait fallu donner le manque à gagner chiffré à un demi-million d'euros par les Rennais. Il aurait fallu donner cette somme aux Rennais pour les dédommager.
Soit Rennes récupère de l'oseille, soit je sais pas. En fait, il y a un truc où c'est pas au PSG d'être sanctionné financièrement, alors que là on parle de sportifs. On parle de sportifs et sur un manquement de la part d'un club pour recevoir un club de Ligue 1. Ouais, et après, je vais même te dire pour moi, Rennes se fait avoir dans cette histoire pour pas dire autre chose, parce que je vais rester vulgaire. Mais Rennes n'aurait jamais dû jouer ce match.
Ils auraient pu
avec le recul, Rennes aurait. Tant qu'il n'y a pas, et on en avait parlé déjà vendredi dernier avec Daniel à Marseille, tant que tu ne sais pas
où se jouera
le match retour, ouais, tu ne joues pas, tu ne reçois pas le Paris Saint-Germain.
Parce que Rennes va se retrouver au mois de mars avec 5 matchs à l'extérieur sur une série de 6. Ça va faire quand même beaucoup. Davide Ancelotti, l'entraîneur du LOSC, en conférence de presse après le match nul de partout de Lille face au PSG.
Qui Paris fait, alors on a cherché de poser des problèmes. Et oui, bien évidemment, si ils ont au marquage, on avait prévu le marquage sur Thiago Santos, qui pouvait être difficile à gérer pour eux, et sur Romain Perrault, parce qu'ils envoient les deux axes centrés sur les centraux. Alors on savait que dans un deuxième temps, on pouvait avoir de l'espace avec les latéraux. Et avec Ballon, on a bien joué, surtout je pense la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, on a pas beaucoup eu le ballon, mais dans la première mi-temps, on a posé pas mal de problèmes, oui.
Davide Ancelotti, l'entraîneur du LOSC. Effectivement, Lille a posé pas mal de problèmes. On va rester à l'écoute, hein, évidemment, avec Flavien en régie pour voir ce qu'il se dit. Mais il faut quand même mettre en valeur la première période assez remarquable du LOSC.
Ouais, hein. Il faut en parler. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très performant. Quand Lille, bon, là, on va parler de Davide Ancelotti, mais globalement, même sur les dernières années, quand ils sont comme ça, à Pierre-Mauroy, en Ligue 1, dans ce type de match, c'est quand même très compliqué d'aller les chercher. Quand ils se mettent dans ce mood-là, avec beaucoup d'électricité, avec ce mélange des vieux briscards qui sont encore, qui pètent encore le feu, la jeunesse, la fougue, l'intensité. Il y a quand même un football moderne proposé à Pierre-Mauroy dans ce type de soirée qui sont quand même très très durs à gérer pour n'importe quelle équipe de Ligue 1. Et c'est ce qu'on a eu sur la première mi-temps. Quant à cet Haraldsson-là, quant à Giroud en pivot, ce qu'il fait sur le but exceptionnel, le duo André Bentaleb et Talem Mbappé, on en parlera après, qui était un peu la cerise sur le gâteau de cette première mi-temps, un peu comme sa rentrée qu'il avait fait l'année dernière où il avait donné le but de l'égalisation contre le Paris Saint-Germain. Et quand tu compares ces deux matchs-là, on avait beaucoup critiqué les intentions lilloises où Genesio, face à une équipe B voire C du PSG, avait mis un milieu de terrain supplémentaire. Là, c'est vrai que sur la première mi-temps, ils ont envoyé du football, un football vraiment spectaculaire. En deuxième, c'était moins le cas, ils ont été beaucoup plus en difficulté, mais ils ont réussi à piquer avec l'entrée de Dylan Bakwa, et ils envoient quand même un message positif. Lille, on a fait beaucoup de débats cette semaine, le manque de recrues, il faut réinvestir. Oui, c'est vrai, il faut réinvestir, mais il y a quand même, je trouve, dans cette équipe-là, une connexion sur les dernières années avec une colonne vertébrale qui se connaît, Alexandro, André Bentaleb, Haraldsson, Giroud, et derrière, tu arrives à avoir le bon mix nécessaire, tu as des connexions, tu as un QI football, tu as une intensité qui va encore permettre à Lille de jouer les premiers rôles dans cette Ligue 1. Donc vraiment ce soir, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Lille.
Moi j'avais des gros doutes, hein, quant à l'arrivée de Davide Ancelotti, hein, qui a très peu d'expérience en tant que numéro 1 par rapport à Botafogo. J'avais entendu un ancien coéquipier qui m'avait dit que c'était pas un top entraîneur. Bon, écoutez, ça n'engage que lui, mais c'est vrai que ce qui m'a montré.
Il vient de dire c'est un tout petit détail, l'arbitrage.
Ouais, bah, c'est ouais, bien. Bah, c'est très bien dans sa communication. Il est serein, il est sain, et je suis convaincu que si LOSC fait une bonne saison, ça sera à travers leurs exploits sportifs et pas ce qui se passe malheureusement des fois en dehors du terrain. Donc pour revenir à Davide Ancelotti, ouais, j'avais des doutes par rapport à lui, et ce qu'il m'a montré sur les sur les deux derniers matchs, et notamment ce soir, parce que c'est vrai qu'au contre Angers, c'est difficile de juger contre une équipe qui était relativement plus faible que le LOSC. Mais la manière dont ils sont partis chercher, agresser, presser un Paris Saint-Germain, qui, rappelons-le, est quand même l'une des meilleures équipes d'Europe, moi j'ai envie de dire chapeau. Hein. J'ai envie de dire chapeau aussi aux joueurs, parce qu'on l'a dit, il y a des départs quand même importants, notamment celui de Boadi, qui est quand même un top joueur. Et quand je vois la manière dont ont répondu présent les tauliers, je parle d'un Olivier Giroud qui va avoir 40 ans, qui a absolument mangé Pacho et Marquinhos dans sa manière de garder le ballon, de décaler ses coéquipiers, notamment sur le premier but d'Aralson. Aralson qui enfin, en tout cas j'espère, va prendre pleine mesure de son talent. C'est sa quatrième saison, me semble-t-il, au LOSC. Lui qui est un top joueur, mais qui manque un petit peu de statistiques. J'espère sincèrement pour lui que c'est la saison qui le permettra en tout cas d'aller toucher les sommets, et pourquoi pas d'être vendu derrière, d'être la prochaine grosse vente de Lille.
Il
et
a puis, tout voilà, pour
cette paire de milieux défensifs, Benjamin André, Ben Taleb. On parle de la jeunesse un petit peu du football moderne, et les mecs ils vieillissent et chaque année ils sont meilleurs et meilleurs. Ben Taleb avait été énorme la semaine dernière avec un Benjamin André qui avait été suspendu. Là encore ce soir, honnêtement, les mecs ils sont exceptionnels, c'est des super joueurs. Alors je me poserai peut-être la question,
bon, Benjamin André pas passé loin quand même de la correctionnelle, non,
je veux dire, il est important,
il peut prendre rouge, hein.
Ouais. Il est important lorsqu'il faut garder le ballon,
enfin, c'est un bien,
leader, ouais. Ouais, non, bah, enfin, en règle générale, ouais. Le collectif lillois a été très très bon. Alors c'est pareil sur Ngoy, moi j'avais des doutes l'année dernière au début de saison quand j'avais Chancel, quand il y avait Aïssa Mondi, je savais pas à quel niveau Ngoy allait arriver, et la réalité c'est qu'il a fait une coupe du monde énorme avec la Belgique, et ça devient aujourd'hui le taulier de cette défense lilloise, avec un Alexandro qui j'espère va retrouver son niveau d'avant grosse blessure, pourquoi pas l'équipe nationale, ça on sait pas, enfin voilà, quoi qu'il en soit, je trouve qu'ils ont une épine dorsale.
Et encore sur la première mi-temps, je trouve que Correa leur fait beaucoup de mal,
bien sûr,
parce que Correa, les pieds sont pas à lui, hein.
C'est là que j'allais en parler justement par rapport à cette jeunesse, parce que il va falloir aussi ouvrir le dossier, parce qu'il a fait un match incroyable, alors bien aidé par le mauvais positionnement de Zaïre Emery, donc ça lui permettait de bien prendre la profondeur dans le dos de la défense du Paris Saint-Germain, mais il a été énorme ce premier centre là, où est-ce qu'il fait rouler de pied gauche, centre extérieur pour Olivier Giroud qui se fait contrer par Safonov. Non, aujourd'hui t'as quand même une équipe lilloise qui est incroyable. Alors il faudra voir avec l'accumulation des matchs, les semaines à 2 ou 3 matchs avec la Ligue des Champions, et encore une fois je parle souvent de ce département, en tout cas de ce domaine de l'axe défensif, t'as quand même une profondeur de banc qui est quand même plus que limite, et notamment en défense centrale avec les départs de Mbemba et Aïssa Mandi. Je sais pas comment Ngoy et Alexandro vont digérer autant de matchs.
Les deux c'est fiable.
Ouais, mais autant de matchs,
ouais, Walid, ça va, Ngoy, c'est le prochain transfert à 50 bâtons.
Ça va quand tu joues un match par semaine, oui, mais quand tu vas accumuler les matchs avec la Champions, avec les blessures, avec l'équipe nationale, peur que le LOSC risque d'être un petit peu à court. C'est aussi pour ça que je terminerai, que je conseillerais en tout cas à Olivier Letton, je ne sais pas si j'ai des conseils à lui donner, mais d'utiliser la vente de Boadi pour essayer en tout cas d'aller rechercher un ou deux mecs de manière à pouvoir un peu fournir le banc de touche du LOSC.
Et peut-être un gardien aussi, on en reparlera, parce que Zor, pour moi, ça reste quand même peut-être le profil de cette équipe là.
Steve, ils ont pris Gilles là, non?
Oui, ils ont pris le gardien de l'équipe du Paraguay. Peut-être pour le concurrent, on verra ça effectivement. Steve est avec nous, supporter du LOSC. Merci d'avoir patienté, Steve.
Ouais, pas de souci. Salut les gars.
Salut Steve.
Steve, tu étais au stade ce soir?
Ouais, je viens de revenir là.
Bon, ça va, le trajet était pas trop long?
Non, bon, on aimerait mieux que le stade y soit allé là. Ce serait plus logique, mais bon, il y a Villeneuve d'Ascq.
Bon, il n'est pas très loin quand même. Il n'est pas très loin, Steve. Ouais. Et puis, il est beau, votre stade. On est toujours fermé. Ouais, c'est embêtant, le toit, non?
C'est beau, hein. Moi, tu me dis de retourner à Clément Préjoris, j'y retourne. Hein.
Ah oui, non, mais là, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Ouais. C'est autre chose.
Alors, les gars, moi, je voudrais parler de plusieurs choses.
Vas-y.
Alors, la première, sur le résultat, on va dire qu'on est déçus par rapport à la physionomie du match. Mais avant le match, moi, j'avais dit à mes enfants, le but, c'est de faire un bon match. Même si on perd, mais de faire un bon match et pas se prendre 7-1 comme on avait pris une année, là. On a fait un bon match. On mérite de gagner le match parce qu'il y a Giroud qui bouffe la feuille de match 2 fois. Il y a Correa, je sais pas comment il a raté l'action aussi en première mi-temps. Mais par contre, moi, je voulais souligner tactiquement, techniquement, j'ai vu des mouvements, en fait, parce que je suis derrière le but, en fait, en hauteur. J'ai vu des choses tactiques incroyables, on va dire à l'italienne. Et en fait, tout à l'heure, j'ai entendu Davide Ancelotti qui disait c'était un petit détail. Non. Moi, je vais commencer à discuter clairement de Monsieur Watelier, et je vais être poli. Parce qu'on est à l'antenne, il y a des enfants qui nous écoutent, mais vous imaginez bien que j'aimerais bien dire des mots d'oiseau. Parce que ce mec-là, contre Lens, vous avez compris. Contre Rennes, c'est là où il fout un bordel avec l'étang et tout ça. Là, en fait, j'ai vu à un moment, en fait, il y a Berkeozer Je sors un peu du détail du match. Il y a Berkeozer, en fait, qui veut faire un dégagement de 6 mètres. Il va chercher le ballon derrière. Dès qu'il rentre, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça commence. Corner. Bon, bref. À la fin, les gars, comment on explique qu'on a 3 minutes d'arrêt de jeu?
Mais André, il doit prendre rouge.
Non, mais attends, parle-moi pas de carton.
Non, mais André, il doit prendre rouge.
Non, mais attends, écoute, 2-1. Ça fait 2-0, 2-1. Il y a 3
minutes
d'arrêt de jeu.
Il peut siffler faute sur le premier but.
5 minutes d'arrêt de jeu. Alors pourquoi il y a 5 minutes d'arrêt de jeu?
Il y a faute d'Engoy sur Ferran Torres. Il
faut arrêter de se cacher derrière la main.
Non, mais non, c'est tout. C'est... fait de jeu.
Tu prends deux buts en 3 minutes.
Écoute, il y a des décisions arbitrales qui ont été quand même bien plus contestable que ce qui s'est passé ce soir.
Aligne-toi sur le coach, il te dit que c'est des détails.
Sinon, tu vas t'arracher les cheveux toute la saison.
Mais non, mais là, t'es frustré, là.
Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais non, mais à ce moment-là, c'est un fait de jeu et il va en avoir, ça va s'équilibrer dans la saison. Mais le problème, c'est qu'avec ce monsieur-là, ce Watelier-là, à chaque fois, il y a des problèmes. Et au final, à la fin, au lieu de finir le match une bonne fois pour toutes parce qu'on a dépassé les 5 minutes, maintenant, ce monsieur, il a bien
pris. Et Ozer, il met 45 secondes dans le temps additionnel.
Et puis certains te diront qu'il y a aussi faute sur le premier but de Lille.
Mais c'est ce que j'ai dit.
D'accord. Les gars, de toute façon, quand c'est Paris, vous trouvez.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Je pense qu'on va le désinguer sur l'histoire du stade il y a deux minutes. T'écoutes ou t'écoutes pas?
Je pense qu'il faut être modéré. Alors autant que l'arbitrage va être critiqué. Autant que l'arbitrage va être critiqué toute cette saison, là, honnêtement, c'est pas forcément flagrant.
J'ai pas entendu ce qu'il a dit.
Non, Walid, il précisait juste qu'il vienne de dire que le Paris Saint-Germain ne méritait pas de recevoir le Rennes, tu sais, dans la polémique de la version du match.
C'était une honte et que c'était une dinguerie. Donc sur le PSG, t'inquiète pas, on a aucun problème à critiquer quand il faut critiquer. Sauf que la réalité, si ce soir, en plus on a parlé de la super première mi-temps de Lille, moi j'ai envie de parler d'Ethan Mbappé. Moi j'ai pas envie de parler de l'arbitrage. J'ai envie de parler d'Ethan Mbappé qui encore une fois montre que c'est pas comme certains peuvent le penser le pistonné du football parce que il a un blaze qui est très très important avec Mbappé qui lui a permis d'arriver au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, moi la première mi-temps qu'il fait, bah sincèrement, si on doit ouvrir le dossier, bah ça devient très sérieux cette histoire. Vraiment, moi ce mec-là me parle footballistiquement. Il y a 2-3 palettes, la Ligue 1 plus à la mi-temps, qui montre tout ce qu'il fait sans le ballon pour avoir le ballon plus haut sur le terrain. Il a une connexion avec le reste de son équipe. Il a un grain footballistique qui me plaît. Maxime en a parlé tout à l'heure. Il te fait un double contact là sur l'occasion de Giroud, qui est incroyable. Il a même des cannes, alors que moi je l'avais vu milieu de terrain en jeune avec le PSG.
Ah bah,
et son passé de milieu de terrain relayeur lui permet aussi de pouvoir dézoner, de pouvoir partager le ballon. C'est un joueur généreux. Sincèrement, moi j'aime beaucoup ce que propose Ethan Mbappé. Je vous le dis, et ça peut être sa saison.
Par contre, la finition.
Oui, mais
là, c'est vraiment
bien
la,
évidemment.
C'est la marge de progression.
Il a une marge de progression. Il est encore jeune, mais ce qu'il montre, sincèrement, c'est très fort. Moi, j'ai été choqué. Moi, je suis agréablement surpris par la marge de progression, par ce qu'il fait au quotidien dans cette Ligue 1. Contre Angers aussi en première mi-temps, ça avait été bon. Il marque contre l'OM quand même. L'année dernière, il est dans les bons coups de l'ouverture du score contre l'OM. Contre le PSG, il égalise aussi. Non, mais ça. Ah ouais. Il faut quand même en parler de Ethan Mbappé. C'est pas un petit joueur, quoi. C'est pas un petit joueur.
30 secondes. Ouais, non, parce qu'on a toujours tendance à être très très dur avec les joueurs qui sont frères ou fils d'eux. Et c'est vrai que pour le coup, là, Ethan Mbappé, il a une sacrée étiquette en étant le frère de Kylian. Je pense que la grande différence, c'est son repositionnement sur les côtés. Et c'est vrai qu'il a été très très intéressant, notamment les courses dans le dos de Zaïre Emery. Alors, j'étais assez surpris de le voir d'ailleurs assez rapide. Enfin, je savais qu'il avait des cannes, mais à ce point, c'était vraiment surprenant. Mais c'est vrai que dans son QI football, dans la manière dont justement il lève sa tête pour aller chercher ses coéquipiers, honnêtement, tu vois que c'est un joueur de très haut niveau. Alors, c'est encore très tôt pour te dire quel genre de carrière il va faire, mais je ne serais pas surpris qu'il prenne de l'épaisseur cette saison et qu'il puisse être un élément important du LOSC.
Il a 19 ans, hein, c'est un 2006. Hein. Il a 19 ans.
On a hâte de voir la suite, évidemment, pour Ethan Mbappé. De partout, donc, entre Lille et le Paris Saint-Germain, c'était le gros match du soir de cette deuxième journée de Ligue 1. Le PSG qui a arraché le match nul dans le temps additionnel grâce à Marquinhos et Vitinha, alors que Bakua et Haraldsson avaient permis à Lille de mener 2-0.